VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. Présidentielle américaine du 8 novembre, la candidate démocrate Hillary Clinton et son rival républicain Donald Trump repartent ce mardi en campagne en Caroline du Nord pour Mme Clinton et en Floride pour le milliardaire, après un premier débat télévisé très houleux hier soir. Les deux rivaux sont au coude à coude dans les sondages portant sur les deux États en question. Deux autres débats opposeront les deux aspirants à la Maison-Blanche d'ici le vote du 8 novembre. À noter aussi que deux autres candidats à la présidence, le libertarien Gary Johnson et la candidate écologiste Jill Stein, n'ont pas pu participer au premier face-à-face télévisé d'hier soir en raison d'intentions de vote trop faibles dans les sondages. Au micro d'Idrissa Sedoudia, écoutez la réaction de Leonard Wanchekon, professeur de sciences politiques et d'économie à l'Université Princeton dans le New Jersey, au débat présidentiel de lundi soir.
Clairement, Mme Hillary Clinton a gagné le débat. Vers la fin, Donald Trump s'est effondré, quoi, tout simplement.
Et qu'est-ce qui vous fait dire ça spécifiquement?
D'abord parce que du point de vue de la clarté, du point de vue de la précision, de la logique dans les idées, du point de vue également de l'attitude, quoi, c'est-à-dire de l'attitude sur le plateau.
Pensez-vous que ce débat va changer quelque chose à la
donne? Je crois. D'abord, deux choses. Premièrement, ce que ça devrait changer, c'est que les personnes qui hésitaient là vont encore douter davantage de Trump. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Les gens qui ne sont pas totalement dans le camp de Clinton et qui bougeaient vers Johnson et puis Stein, la candidate verte et le candidat, donc, libertarian candidate, ce qui pourrait se passer, c'est que ceux-là vont voir l'enjeu et ils vont peut-être basculer quelque peu. Mais évidemment, il faut rester très 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 prudent parce que c'est clair, il y a des choses qui se sont passées il n'y a pas si longtemps, donc qui dans d'autres élections auraient coulé complètement la campagne de Trump. Ça ne l'a pas fait. Mais je douterais quand même qu'il puisse sortir grandi de ce débat.
Leonard Wanchekon de l'Université Princeton dans l'État du New Jersey, au micro d'Idrissa Sedoudia. Afrique maintenant, RCA, le nord-ouest du pays en proie depuis plusieurs jours à des violences meurtrières, des troupes qui auraient déjà fait plus d'une dizaine de morts et des milliers de déplacés. Plus de détails avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Plusieurs localités de la préfecture de Lompindi sont passées ces jours-ci sous le contrôle des hommes du général Sidiki, un chef rebelle peul originaire du Cameroun. Aujourd'hui, c'est la commune de Dégol qui est visée par une attaque de ces hommes armés. Les détonations des armes lourdes et légères ont obligé plusieurs centaines de familles à fuir vers la ville de Bokaranga, située à 40 km de Dégol. Pourquoi cette flambée de violence? Les autorités locales expliquent que le général Sidiki assure avoir reçu l'aval de Bangui pour sécuriser la région du Nord-Ouest. Propos formellement démentis par Jean-Serge Bokassa, ministre centrafricain de la Sécurité publique. Joint au téléphone par VOA Afrique, le général Sidiki parle d'une opération de ses hommes pour sécuriser les éleveurs et leurs troupeaux régulièrement menacés par des miliciens anti-Balaka. Ces nouvelles violences condamnées par Bangui auraient déjà fait une dizaine de morts, de nombreuses habitations incendiées et des milliers de déplacés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Gabon, investiture du président Ali Bongo Ondimba pour un second septennat au palais présidentiel de Libreville, 4 jours après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle, qui a rejeté les recours de son rival Jean Ping, chef de file de l'opposition. Un extrait de la prestation de serment d'Ali Bongo devant la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mborantsou.
Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'état de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous, je le jure.
La Cour constitutionnelle prend acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos hautes fonctions.
Madame Mborantsou avait préalablement rappelé la décision des 9 juges constitutionnels rendus dans la nuit de vendredi à samedi, à savoir qu'Ali Bongo a été élu avec 50,66% des suffrages face à Jean Ping, 47,24%. Ont assisté à la cérémonie d'investiture quatre chefs d'État africains, Mali, Niger, Togo, Sao Tomé, ainsi que les premiers ministres du Sénégal, du Tchad, du Congo-Brazzaville, de la Centrafrique et du Maroc. La France était représentée par son ambassadeur à Libreville. Idem pour les États-Unis. Pour sa part, le leader d'opposition, Jean Ping, continue de contester la réélection du président Bongo. On écoute Jean-Gaspard Ntoutoumaï, porte-parole de Jean Ping.
Je pense que le Gabon est dans une crise probablement la plus grave de son histoire. Combien de temps y restera-t-elle? J'espère le moins longtemps possible. Mais nous ne pourrons pas en sortir en niant la démocratie, en niant le suffrage de nos concitoyens. Nous ne pouvons pas nous en sortir dans ces conditions-là. Monsieur Ping considère que c'est à lui que les Gabonais ont accordé le maximum de suffrage lors de l'élection présidentielle le 27 août dernier. Et ce n'est pas que lui qui le considère.
Jean-Gaspard Ntoutoumaï, porte-parole de Jean Ping. Rappelons que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a regretté samedi dernier que l'examen des recours n'ait pas levé tous les doutes sur la réélection du président Ali Bongo Ondimba.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Cour pénale internationale, un djihadiste malien a été condamné lors d'un verdict historique à 9 ans de prison par la CPI. Il a été reconnu coupable d'avoir détruit les mausolées à Tombouctou au Mali. Ce jugement est salué par l'ONU et les ONG comme un signal fort contre la destruction du patrimoine culturel. Les précisions de Tatiana Mosso.
Le Touareg Ahmad Al-Faki Al-Mardi était accusé de crimes de guerre pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre 9 des mausolées et la porte de la mosquée Sidi Yahya entre le 30 juin et le 21 juillet 2012. Les juges ont affirmé qu'il était membre d'Ansar Din, l'un des groupes djihadistes qui ont contrôlé le nord du Mali pendant environ 10 mois en 2012. En tant que chef de la Hizba, la brigade islamique des mœurs, il avait ordonné et participé à la destruction de mausolées classées patrimoine de l'humanité. Les juges ont toutefois retenu plusieurs circonstances atténuantes en faveur d'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Il avait admis sa culpabilité et avait demandé pardon à l'ouverture de son procès. Al-Mahdi est le premier djihadiste à être jugé à La Haye dans le cadre du conflit malien.
Réaction côté Organisation de défense des droits humains, Human Rights Watch a appelé le Mali dans un communiqué à jouer un rôle plus actif dans les poursuites pour des crimes de guerre sur son territoire. Amnesty International, pour sa part, a rappelé les centaines de civils tués, torturés ou violés et invité la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, à continuer ses enquêtes sur les abus commis au Mali. Soudan du Sud, le gouvernement sud-soudanais exhorte le Soudan et les États voisins à ne pas laisser le chef de l'opposition sud-soudanaise, Riek Machar, reconstruire une nouvelle rébellion. Machar se trouve dans la capitale soudanaise Khartoum après avoir fui le Sud-Soudan suite aux combats qui ont éclaté entre ses partisans et ceux de son rival, le président Salva Kiir. Les précisions de Salwa Jafari.
L'appel fait suite aux menaces de Riek Machar dimanche. Il a menacé de lancer une nouvelle rébellion si ses demandes ne sont pas prises en considération. Les deux camps avaient signé un fragile accord de paix en 2015, après 2 années de conflit. Après des entretiens à Khartoum avec les commandants et les responsables de son mouvement, le SPLM-IO, la semaine dernière, Machar a donné le feu vert à ses forces pour se réorganiser afin de mener une résistance armée au gouvernement de Salva Kiir. Son porte-parole a ajouté depuis Nairobi que le gouvernement doit renouveler le mandat de Machar comme vice-président, le laisser retourner à Juba avec plus de troupes, permettre le déploiement rapide d'une force de protection régionale et annuler toutes les décisions prises depuis juillet. Les tensions croissantes menacent de replonger le Soudan du Sud dans un nouveau conflit.
La Somalie annonce un nouveau report de ses élections d'octobre à novembre en raison des problèmes administratifs et de sécurité. Le vote aurait dû avoir lieu en août. Mais les autorités électorales soutenues par l'ONU avaient dans un premier temps reporté le scrutin présidentiel au 30 octobre après des élections législatives à l'origine prévues entre septembre et octobre. Maintenant, les législatives se tiendront entre le 23 octobre et le 10 novembre et la présidentielle au plus tard le 30 novembre. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.